OK, mon premier invité pour ce soir, c'est le chroniqueur sportif très connu, Philippe Quentin, un gars de Québec qui travaille depuis des années à Montréal et qui sort cette semaine le livre sur Serge Chavard, Canadien jusqu'au bout. Salut Philippe!
Salut Dan!
Comment vas-tu?
En pleine forme, merci!
Philippe, j'ai beaucoup trop de questions pour toi. On va essayer de faire ça dans un délai raisonnable. Ça fait déjà un petit bout qu'on ne s'est pas parlé en plus. Mais on va s'attarder au livre. Le livre m'intéresse. Je ne l'ai pas lu. Je vais être très honnête là, pour que les auditeurs soient conscients.
Tu feras ça en fin de semaine.
Je vais faire ça en fin de semaine. J'ai 3 jours en plus. Ah. On a un congé lundi. Philippe, est-ce que ça a été difficile de convaincre M. Savard d'écrire un livre sur lui?
Ça faisait un certain nombre d'années qu'on en parlait, lui et moi. Serge hésitait beaucoup à publier son histoire parce qu'il ne voulait pas écorcher des gens. Puis il savait bien que, sans vouloir être méchant du tout, mais qu'en racontant sa propre vérité, forcément, il y a des gens qui allaient... sa vérité n'était peut-être pas la même que celle de d'autres personnes. Alors, pour cette raison-là, je pense que beaucoup hésité. Puis tout à coup, il a réalisé que le moment était venu. Son fils, Marc, insistait beaucoup. Puis moi, sans insister, on a lunché une couple de fois là, par année pendant 3-4 ans. Puis le sujet revenait sur la table. Puis tu sais, moi, j'essayais de lui faire... pas de lui faire comprendre parce qu'il le réalisait, mais de le sensibiliser au fait que c'était important qu'un gars comme lui, qui a été un acteur aussi important dans notre scène sportive, qui livre son témoignage, qui raconte sa vie. Moi, Dan, je trouve qu'au Québec, on raconte pas assez notre histoire, que ce soit en politique, en art et spectacle, en sport, bien sûr. Tu sais, les Américains, les Français racontent, font des livres. Nous, je trouve qu'on est encore un peu timide de ce côté-là. Et là, tu as un personnage plus grand que nature comme lui, qui a un parcours exceptionnel comme joueur, membre du Temple de la Renommée, série du siècle en 72. Après ça, un parcours exceptionnel comme directeur général. 3 finales de la Coupe Stanley, dont 2 victoires en finale de la Coupe Stanley. Toutes ces années en lutte avec les Nordiques aussi, c'est notre histoire au Québec. Puis moi, je voulais je souhaitais qu'il la raconte. Puis Serge est rendu aujourd'hui à 73 ans, puis le temps était venu.
Philippe, je comprends que tu avais déjà une relation avec l'homme avant même d'écrire le livre, mais qu'est-ce que toi, t'as appris?
Tellement de choses. La relation que j'ai avec Serge depuis plusieurs années, c'est que je le connais comme journaliste. Quand je suis arrivé, quand j'ai été embauché par Le Soleil en 1984, puis que mon mandat, c'était d'aller à Montréal pour couvrir le Canadien l'hiver puis les expos l'été, Serge était déjà directeur général du Canadien. Alors, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Je ne l'ai pas connu comme joueur. Ça, c'était avant mon temps, mais je l'ai connu, au fond, à ses tout débuts comme directeur général. Ça faisait un an à peu près qu'il était là. On n'était pas des amis, là, mais on parlait souvent des mêmes choses. Tu sais, à l'époque, puis je pense que tous les journalistes l'ont dit, les relations, c'était pas la même chose. Tu avais le numéro de téléphone du directeur général à la maison. Tu n'avais pas besoin de passer à travers des gens de relations publiques pour lui parler. S'il assistait à un entraînement dans les gradins, tu pouvais aller t'asseoir avec lui, puis tout ça. Donc, on avait cette relation-là, basée sur, je pense, sur une relation professionnelle qui était fort correcte, civilisée, puis tout ça. Puis après ça, quand lui, il a quitté le Canadien. Moi, j'étais plus sur le sport. Je couvrais la politique ici à Québec. Là, on s'est perdu de vue pendant, je dirais, une bonne quinzaine d'années, probablement. On s'est peut-être croisé une fois dans un événement là, de mémoire, mais pas plus que ça. Et puis, quand j'ai recommencé à écrire en 2011-2012, on parlait beaucoup de violence dans le hockey. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de batailles et tout ça. Ouais. Puis, c'est un sujet qui a toujours tenu Serge à cœur puis sur lequel j'ai beaucoup écrit.
Aussi,
Et là, j'ai recommencé tout à coup à lui parler, faire une coupe de papier avec lui, puis de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a cheminé, puis là est arrivé le projet du livre.
Tu l'as dit, l'homme et le joueur et le directeur gérant, Serge Chavard a un parcours fascinant. Est-ce que je me trompe, ou je vous ai écouté un petit peu cette semaine, là, c'était le lancement de ton livre, puis souvent, il n'a pas peur de donner son opinion, fait que ça, des fois, ça dérange un petit peu au Québec. Est-ce que je me trompe, où je sens que Serge Chavard est quand même amer en date d'aujourd'hui?
Il est amer de son congédiement du Canadien comme directeur général. Ça, il n'en fait pas de cachette. C'est quelque chose qui l'a blessé. Puis il l'a redit dans toutes les entrevues. Encore aujourd'hui, ça lui fait mal. Parce que, tu sais, quand il parle, par exemple, de Ronald Coré, c'est sûr qu'il lui en veut à cause de ce congédiement. Pour le reste, sa relation avec Ronald Coré, il est le premier à souligner tout ce que Ronald Coré a pu faire pour le Canadien, notamment, et je pense que pour lui, lui, en tant qu'ancien joueur, ce qu'il applaudit le plus chez Ronald Coré, c'est cette ouverture aux anciens joueurs. Oui. Parce qu'à l'époque, oui. le forum là, mm-hmm. était pas, accueillait pas ses anciens oui. avec beaucoup de panache. Et Ronald Coré a tout changé ça. Et Serge, en tant qu'ancien joueur, a participé à ça, l'a certainement contribué aussi à ça. Puis pour lui, c'est quelque chose de fondamental parce qu'il est d'abord et avant tout, je pense, un ancien joueur avant même d'être un ancien directeur général. Mais par contre, quand est arrivée l'histoire du congédiement, ça, c'est clair qu'il ne l'a pas pris parce que, comme il l'a répété cette semaine, il a dit à Ronald Coré à peu près 2 semaines avant son congédiement qu'il pensait qu'il y avait une équipe pour gagner la Coupe Stanley. Mm-hmm. À ce jour, Serge est encore convaincu que le Canadien aurait pu gagner la Coupe Stanley en 96. Tu te souviens, cette année-là, c'est les Panthers de la Floride qui se sont retrouvés en finale de la Coupe Stanley. Alors, pourquoi pas le Canadien, mm-hmm. là, qui avait sur papier certainement une aussi bonne équipe. Mais bon,
Patrick Roy n'a pas joué pour l'Avalanche, il a joué pour le Canadien?
Ouais, ben non, parce que Serge voulait échanger Patrick Roy.
Ah, et, aussi, c'est vrai.
Il l'aurait échangé à l'Avalanche. Stéphane Fizet qui aurait probablement gardé les buts pour le Canadien.
C'est écrit dans le livre, Philippe?
Oui. Et donc, pour lui, c'était vraiment un échange qu'il voulait faire. Il pensait qu'il y avait la stature pour le faire. Pour le faire, ce que je veux dire par là, c'est qu'il serait capable de faire passer cet échange-là. Okay. Parce que c'est sûr qu'à Montréal, échanger Patrick Roy, là, c'était... D'ailleurs, quand il a été échangé, on connaît tous la situation. Ça a été une tempête pour toutes sortes de raisons. Puis, tu sais, 25 ans après, on en parle encore de la journée de l'échange. Quand il y a eu le 25e anniversaire, il y a eu je ne sais pas combien de papiers. Ou c'était le 20e, je pense.
Philippe, est-ce que, après avoir travaillé de façon étroite avec lui dans les derniers mois, dernières années pour le livre, est-ce que tu comprends mieux quand on dit que ça a été le début de la descente du Canadien quand Serge Chavard a quitté son poste de DG, a été congédié?
Oui, ça, il n'y a absolument aucun doute parce que Serge, c'est pas un homme parfait. Puis je pense que dans le livre, là, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que c'est pas une biographie où c'est Serge Chavard superstar de la première à la dernière page. Okay. C'est pas ça que Serge voulait non plus. C'est un homme complexe, comme tous les hommes. Il a ses qualités, il a ses défauts, il a fait ses bons coups. Il a eu plus de bons coups que de mauvais coups, mais il a eu des mauvais coups aussi. Puis le livre raconte tout ça. Et puis l'année précédente, ça n'avait pas été une grande année pour le Canadien avant son congédiement. Le Canadien n'avait pas fait les séries. C'était la première fois depuis 25 ans, je pense, depuis 1970. Coré était vraiment pas content de ça. Il lui a envoyé une note de service dans laquelle il lui reprochait vraiment la mauvaise saison du Canadien, mettant vraiment ça sur ses épaules. Puis c'était correct, c'était lui le directeur général. Il lui reprochait ses habitudes de travail, puis il disait qu'il ne se donnait pas assez au club et tout. Ce qui a toujours fait sourire Serge, parce que Serge Savard dit toujours la même chose. J'ai toujours été en affaires, je me suis toujours intéressé à un paquet de choses, mais en 93, quand on a gagné la Coupe Stanley, personne m'en a fait reproche, mais quand on a perdu, ben là, on m'en faisait reproche. Alors ça, je pense que ça l'a blessé aussi. Mais oui, c'est que Serge avait un plan, il misait beaucoup sur les joueurs francophones, puis il avait un plan, il avait une vision de l'équipe à plus long terme, puis il a été remplacé par un gars extraordinaire que tout le monde aime, Régent Houle, mais qui avait de gros souliers à chausser pour un gars qui n'avait aucune expérience dans la gestion d'une équipe. Et là, l'échange de Patrick Roy, ça a été fait dans la catastrophe, dans l'urgence, ça n'a pas été le meilleur échange. Si on lit le livre, je pense qu'il y a un côté vraiment intéressant, c'est que Serge, lui, un des joueurs de cette époque-là, là, du milieu des années 90, qu'il admire le plus, c'est Mike Keane. Okay. Et puis pourquoi? Parce qu'il connaît Mike Keane depuis presque qu'il était enfant, parce que quand il est allé à Winnipeg avec les Jets, Mike Keane, c'était un petit gars de Winnipeg, et puis il jouait dans la même équipe que son fils, Serge Junior, puis le fils de John Ferguson était dans l'équipe aussi. Alors, il connaissait depuis longtemps, tu sais, puis il savait qu'il y avait de la drive, tout ça, mais Mike Keane, il a passé sous le radar au repêchage. Le Canadien lui a fait signer un contrat comme joueur autonome, mais toujours est-il que Serge lui dit, moi, j'aurais jamais laissé aller Mike Keane, parce que je savais que Mike Keane, il avait été élu capitaine, tu te souviens, ça avait été très controversé, capitaine anglophone, unilingue, tout ça, mais il avait été élu par ses coéquipiers, il était très populaire, puis c'était un leader, puis il a gagné la Coupe Stanley après, puis dis-moi, je l'aurais jamais laissé aller. Alors, tu sais, il y avait un plan, est-ce qu'il aurait gagné la Coupe Stanley, on le saura évidemment jamais, mais je pense que oui, après ça, ça a été, on dirait que son départ, après, l'organisation n'a jamais été capable de se reprendre en main.
Est-ce que tu dirais qu'après les trois grandes vedettes de différentes époques du Canadien, Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur, tu dirais, après ça, le personnage le plus important, c'est Serge Chavard?
Je pense que... Je suis pas sûr que je mettrais tout ce monde-là dans la même catégorie. Je mettrais les trois premiers, oui, parce que c'est leur souvenir au hockey, pas leur souvenir, mais ce qu'ils ont à leurs accomplissements au hockey qu'ils identifient encore aujourd'hui. Oui, ouais. Jean Béliveau a été vice-président du Canadien, mais c'est ben, bravo, une super belle carrière, mais il n'était pas le directeur général de l'équipe. Là, c'est pas lui qui était sur la sellette à tous les jours pour répondre aux questions des journalistes et tout ça. Alors, il était un conseiller, puis il était vice-président et tout. Donc, c'est vraiment ça, c'est des gens qui ont eu l'impact, qui ont fait vibrer le Québec sur la patinoire. Je pense pas que Serge, sur la patinoire, il était un grand joueur et membre du Temple de la Renommée, mais je pense pas qu'il a fait vibrer le Québec comme Guy Lafleur. Là, faut être réaliste. Ouais. Par contre, comme il est le seul qui est devenu directeur général. Alors, ce qui, pour moi, m'impressionne le plus, c'est ça, c'est ce rôle, ce rôle double. Il y a un excellent joueur, un grand joueur, tu sais, encore une fois, série du siècle, là, en 72, il est le seul membre de l'équipe canadienne, quand il était en uniforme dans 5 matchs, parce qu'il a été blessé, le Canada n'a jamais perdu.
Il devait être efficace.
Oui, il est assez efficace. Ouais. Puis bon, il a gagné la Coupe, il a gagné le trophée Conn Smythe à sa deuxième saison dans la Ligue nationale, là, quand même, c'est fantastique. Il a gagné le trophée Conn Smythe avant Bobby Orr, tu sais, en tant que défenseur. Il était le premier défenseur à gagner le trophée Conn Smythe. Okay. Bon, et après, il devient directeur général. Alors ça, c'est assez unique. C'est ça qui fait qu'il y a un rôle unique dans l'histoire du Canadien. C'est qu'il a travaillé pour cette organisation-là à deux paliers, puis il a brillé à deux paliers complètement différents, c'est-à-dire comme joueur, comme athlète et comme administrateur, comme directeur général. Et c'est ça qui, à mon avis, rend son parcours unique.
Beaucoup de gens sont au courant, mais je suis convaincu qu'on va l'apprendre quand même à certains auditeurs ce soir. Pourquoi on l'appelle le sénateur?
Parce que c'est Yvon Pedneault, à l'époque du Montréal Matin, qui l'a surnommé le sénateur. Il y avait eu deux surnoms avant, Serge. Quand j'ai trouvé ça, puis il y en a un, je pense qu'il s'en souvenait même pas, mais c'était écrit dans les journaux à l'époque. Le premier, c'était l'Almanach. Il l'appelait l'Almanach parce qu'il savait beaucoup de choses. Okay. Il connaissait beaucoup de choses. Puis là, l'Almanach, c'est devenu tout à coup, ça n'a pas trop pogné, je comprends bien. Là, ça a été l'encyclopédie. On décidait de l'appeler. Ça n'a pas trop pogné non plus. Puis tout à coup, c'était le sénateur. Alors pourquoi? C'est parce qu'il en imposait dans le milieu du hockey, parce qu'il parlait d'affaires, il parlait de politique, il parlait de toutes sortes de choses. À l'époque, les sénateurs, probablement que leur image publique était meilleure que celle qu'elle est devenue au fil du temps. Ouais. Donc, c'était vraiment un mot qui incarnait le respect qu'on lui vouait, puis le fait qu'il était capable de parler de toutes sortes de choses. Parce que Serge, c'est un gars qui adore la politique. Là. On en parle tout le temps. Il en mange, la politique. Il est né là-dedans parce que son père était organisateur. Il était maire de Landrienne en Abitibi, puis il était organisateur. Son père était organisateur de l'Union nationale. Puis, tu sais, Serge a fait des choses quand même assez incroyables. À 20 ans, ou à peu près, le Canadien, je pense que avec le Canadien junior, ou en tout cas, peu importe, fin Canadien junior, début Canadien, puis là, il y a le congrès du Parti progressiste conservateur pour élire un chef pour remplacer John Diefenbaker à Toronto, Maple Leafs Garden. Et son père dit à Serge, je vais t'inscrire comme délégué jeune, puis tu vas aller voter. Alors, à ce jeune âge d'à peu près une vingtaine d'années, Serge, pendant l'été, c'était au mois de juin, part pour Toronto, s'en va participer au congrès du Parti conservateur progressiste comme délégué. Ouais. Donc, c'est des expériences. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui faisaient ça, là, des choses comme celle-là. Et puis, il aimait ça. Il rencontrait des gens. Il est devenu ami avec des politiciens. Quand Jean-Jacques Bertrand est devenu chef de l'Union nationale après la mort de Daniel Johnson. Bon, il est devenu tout de suite premier ministre, mais il y a eu par la suite un congrès à la chefferie où Jean-Jacques Bertrand luttait contre Jean-Guy Cardinal. Puis Serge était un chaud partisan de Jean-Jacques Bertrand. Puis le leadership, ça s'est réglé à un congrès au Colisée de Québec. Puis Serge était là dans les gradins. Okay. Puis ça, alors, il aimait ça. Il aimait la politique beaucoup, beaucoup. Alors c'est pour ça que ça vient, de là que ça vient le sénateur.
Est-ce que tu comprends mieux maintenant pourquoi c'est un homme qui est autant respecté?
Je pense que je le comprenais avant.
Tu le savais, non, je doute pas de toi, là, mais tu comprends ma question.
Ouais, tout à
des
fait.
Fois, quand on est de façon étroite avec quelqu'un.
Oui, tout à fait. C'est renversant la place qu'il occupe, puis la présence aussi qu'il a. Un des plus beaux souvenirs que j'ai, Dan, avec la rédaction de ce livre-là, c'est en juillet 2018, donc il y a un petit peu plus d'un an maintenant. C'était le 100e anniversaire de la ville de Landrienne, en Abitibi. Alors, Landrienne, c'est là qu'il est pas né là. Il est né à Montréal parce qu'on craignait des complications à la naissance. Okay. Alors, mais tout de suite, il est retourné après, sa mère et lui sont retournés après en Abitibi. Et donc, Landrienne, c'est en grosso modo, c'est entre Val-d'Or et Amos, c'est un petit village. Là. Et puis, il fêtait le centième, c'est évidemment un des invités d'honneur. Puis moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. Là. D'abord, c'est qu'il est arrivé là, puis ça faisait quand même quelques années probablement qu'il était allé. Il est allé pour le 75e, c'était en 93, il avait amené la Coupe Stanley cette année-là. Mais tu sais, il arrive là, puis là, c'est les gens de Landrienne qui sont là, puis tous les gens de sa génération, il les connaît tous. Puis d'autres qui sont plus jeunes, qui ne connaissent pas, ils vont arriver, puis là, les gens lui disaient, ben moi, je suis le fils de Joe, je vais inventer un nom, de Joe Tremblay, puis moi, je suis la fille de... Ah oui, puis tu sais, puis comment... Bon. Tu sais, alors, il est encore très, très proche de toute cette réalité-là, très proche des gens. Puis tu sais, ça m'a beaucoup marqué, parce que Serge, tu en as parlé tantôt, un peu amer de la façon dont ça s'est terminé avec le Canadien, un peu amer. Bon, amer, tu sais, il y avait peut-être que... Il aurait aimé aujourd'hui encore avoir représenté le Canadien. C'est pas le cas, là. Il n'est pas un représentant du Canadien. Mais il arrive dans un événement comme celui-là, puis il porte un petit polo là, avec le sigle du Canadien. Puis quand il parle, il raconte l'histoire du Canadien, puis tous les gens... Il incarne le Canadien. T'sais, c'est Monsieur Canadien de Montréal, même s'il ne travaille plus pour lui, même s'il n'est pas un ambassadeur de l'équipe. Puis c'est pour ça, malgré les déceptions qu'il a eues, c'est là que ça m'a frappé. Comment, malgré tout, malgré les reproches, comment sa loyauté n'était pas à des hommes qui font le Canadien à des périodes de son histoire, mais à l'institution qu'est le Canadien. Elle est là, sa loyauté. Sa loyauté, elle est envers le CH, envers ce que ça représente pour le Québec. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il incarnait cette équipe-là jusqu'au plus profond de lui-même. Puis c'est là que j'ai eu l'idée du titre « Canadien jusqu'au bout ».
Très bon.
C'est
très,
comme
très
ça
très
que c'est venu.
Est-ce que tu dirais que le meilleur mot pour le décrire, ce serait « prestance »
Oui, ben, clairement. Le jugement aussi, je pense. Et puis, aussi, c'est un gars qui ne s'énerve pas. Il est cool. Alors, et ça, là, être, en anglais, il y a une expression de « grace under pressure », être capable, sous la pression, de conserver son calme. Pour moi, ça définit Serge Savard.
Parfait. Le livre est déjà en librairie. Procurez-vous-le. Moi, ça m'intéresse beaucoup de le lire. Serge Savard, Canadien jusqu'au bout, écrit par Philippe Quentin. Merci d'être passé dans nos studios ce soir, Philippe.
Hey, merci beaucoup de ton invitation, Dan.
À bientôt.